Gilles. Détour, Martine Galland.
Bonjour à tous, c'est Joseph Chovanec qui est aujourd'hui l'invité de Détour. Il a 33 ans, il est philosophe et vient de publier son deuxième livre. Le premier s'appelait « Je suis à l'Est », le second est un éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas. Un livre magnifique, à la fois plein d'humour et de sagesse, plein d'histoires, de rencontres, de paysages et de réflexions sur le voyage, sur les façons de voyager, sur la virtualité, l'information, sur le monde aussi et sur notre époque agitée. Joseph Chovanec vit avec le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme diagnostiquée sur le tard pour ce qui le concerne. Auparavant, il a traversé bien des chaos, à commencer par, tout petit, la méchanceté et parfois la violence des autres enfants. C'est le voyage qui a tout changé pour lui et pourtant il écrit « Mes voyages ont commencé bien misérablement ». Quelques stations de métro étaient comme un voyage au bout du monde pour moi. Voici l'interview de Joseph Chovanec, enregistrée il y a quelques jours à Paris.
Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de m'accueillir à la RTS. Et effectivement, vous savez, je n'étais pas prédestiné à devenir voyageur. Bien au contraire, pour quelqu'un de phobique socialement parlant, se déplacer même de quelques mètres hors de sa chambre peut être un peu compliqué. Et par exemple, en 2004, cela fait donc 10 ans, c'était une année que j'ai presque entièrement passé chez moi. J'étais à l'époque bourré de médicaments et je n'avais pas de compétences sociales particulières. Et ce n'est qu'ensuite, petit à petit, avec quelques, je dirais, coups de folie, comme mon premier voyage au Moyen-Orient, que j'ai un peu appris à découvrir le monde, de voir les gens que l'on peut croiser en chemin et de voir tous les différents paysages. Je suis particulièrement sensible à certains paysages.
Ce que vous nous dites, Joseph Chovanec, c'est que vous avez eu des traitements médicamenteux par rapport à l'autisme?
Alors, évidemment, en Europe occidentale, on ne connaît pas forcément très bien l'autisme. Et il y a quelques années, c'était encore moins le cas. Et du coup, j'ai été, entre guillemets, victime d'un certain nombre d'errances médicales et donc de toutes sortes de médicaments qui étaient, disons, erronés. Mais malheureusement, c'est encore le cas de beaucoup de gens, beaucoup de mes amis, par exemple. On œuvre à modifier cela et on espère qu'un jour ça changera. Mais pour moi, c'est du passé, voyez-vous, et j'essaye de penser à autre chose. Et c'est une petite joie quand vous êtes concerné par le handicap de faire mentir les pronostics. C'est même une jubilation. Et donc, à titre personnel, c'est peut-être l'un des ressorts secrets de ma décision de voyager de plus en plus. Souvent, on a tendance à enfermer les personnes handicapées entre quatre murs. Eh ben, les personnes handicapées se rebellent, si j'ose dire, et voyagent. Par exemple, un ami suisse, Alexandre Jolien, que vous connaissez sans doute.
Lui, bien sûr.
Lui aussi, il voyage en Corée et de beaucoup d'autres lieux encore.
Mais alors, expliquez-nous pour vous, Joseph, entre ce moment où c'est difficile de sortir de sa chambre, c'est impensable de prendre le métro, et puis le moment où vous partez à l'autre bout du monde, comment se fait ce passage ?
Ah, vous savez, quand on est en voyage, on est dans une culture parfois très différente de la sienne, et curieusement, ça peut être plus facile que chez soi. Par exemple, si vous êtes au Japon, si vous ne savez pas dire bonjour à la japonaise, eh bien les gens, ils comprendront. Ils verront bien que vous n'êtes pas japonais ou japonaise, et donc ils auront une certaine tolérance. Ajoutez-y le fait que dans beaucoup de cultures, il y a une vraie tradition de l'accueil qui est très forte, et on ne peut pas être bizarre dans certaines cultures. Je peux vous donner un exemple qui ne me concerne pas directement, mais j'ai entendu cette histoire tant de fois que je vous l'ai dit. Je connais un certain nombre de familles qui ont un enfant avec autisme, un jeune adulte plutôt, devrions-nous dire. Et donc ces familles-là partent en vacances systématiquement, par exemple au Sénégal. Vous allez me dire, c'est curieux, mais au Sénégal, le regard méprisant n'est pas présent. Vous voyez, au Sénégal, tout le monde est plus ou moins bizarre, hein? Chacun est un peu différent. Et puis, disons, il y a une tradition d'accueil. Les portes restent ouvertes. Vous venez quand vous voulez chez les gens, vous discutez. Vous voyez, donc, dans certains cadres culturels, être porteur de handicap peut, j'allais dire, faciliter la tâche. Cet accueil absolument merveilleux, je l'ai vécu personnellement à de nombreuses reprises. Ça peut commencer par exemple, certains petits villages en Palestine. Hein, si vous frappez à n'importe quelle porte, on vous accueille, mais j'allais dire, de façon royale. Même si il n'y a rien dans la maison, mais l'accueil sera fabuleux. Et ensuite, j'ai pu vivre cela notamment en Asie centrale, par exemple en Iran, etc. Il y a réellement certains pays, certaines cultures où on est bien accueilli. Et ça, malheureusement, en Europe occidentale, ça peut se perdre. Si vous le voulez, on peut réfléchir un instant. Par exemple, en Suisse, il y avait jusqu'à il n'y a pas très longtemps le métier de berger.
Y a encore.
Hélas, hélas, ça se perd. Mais il y a quelques décennies ou quelques siècles, si vous étiez par exemple un jeune non-verbal, c'est-à-dire qui ne parle pas, vous pouviez devenir un berger. Et c'était même recommandé parce que si vous êtes quelqu'un de très bavard, il n'est pas souhaitable de devenir berger. Vous souffririez. Et, sauf que malheureusement, ce type de débouché ou ce type d'option pour des gens différents ou un peu bizarres a tendance à disparaître. Peut-être qu'au Moyen Âge, je serais devenu moine copiste. Vous voyez, celui qui copiait les manuscrits. Oh, ce type de métier a un peu disparu, si j'ose dire. Mais peut-être que ça aurait cadré avec mon profil ou ma personnalité. Que sais-je, pardonner cette digression.
Ce qui s'est passé pour vous, Joseph Chovanec, est-ce que c'est le fait d'aller ailleurs et de vous sentir accepté comme vous êtes et pas perçu comme différent qui vous a aidé à avancer par rapport à votre handicap?
On peut le dire d'une certaine façon ainsi. Je vais peut-être le dire de manière plus concrète. Comme vous l'entendez, chers amis auditeurs, j'ai une façon un peu particulière de parler. Les Français pensent que j'ai l'accent suisse, mais vous, vous savez que je n'ai pas l'accent suisse. Par contre, quand je vais au hasard, pour reprendre l'exemple précédent, en Iran, je massacre sans doute le persan encore bien plus que je ne massacre le français. Mais jamais personne en Iran ne s'est moqué de ma façon de parler, parce que les gens trouvent déjà super qu'il y a un occidental, il n'y en a pas tant que cela par là-bas, et en plus un occidental qui parle tant bien que mal leur langue. Vous voyez? Donc c'est quand même assez ahurissant de voir qu'on est parfois mieux accueilli ailleurs que chez soi, mais c'est encourageant d'une certaine façon, c'est une invitation au voyage.
Alors, vous m'invitez aussi à dire maintenant le rapport que vous avez avec les langues, parce que vous en avez apprise une, puis deux, puis trois, puis 10, puis je ne sais pas combien, mais vous parlez de nombreuses langues, dont le persan, l'hébreu, l'arabe, que vous vous apprêtez à retravailler. Et vos voyages passent souvent par les universités.
Il se trouve que c'est une petite astuce que j'ai découverte, étant donné que j'ai passé de nombreuses années à l'université. C'est un environnement que je connais peut-être un peu. Et donc, du coup, lorsque je suis accueilli par une université quelque part à l'étranger, c'est peut-être plus facile que d'être accueilli dans un autre cadre.
Vous avez étudié ici la philosophie et l'histoire des religions?
On peut le dire comme ça. Disons que je fais une thèse sur un sujet pas très intéressant. Donc, mais disons que, vous voyez, c'était.
C'était quoi le sujet?
Ah, c'était sur Heidegger et la mystique juive. Mais disons plus que le sujet des thèses qu'on oublie toujours et ça n'a aucun intérêt. Mais c'est finalement quelle incitation cela donne à découvrir d'autres horizons sur tous les plans, pas que géographiquement parlant, naturellement. Et pour moi, tout cela a été en quelque sorte à la fois, je dirais, un prétexte, une raison et un accomplissement pour le voyage. Voyez. Et donc j'ai pu voyager notamment à travers le Moyen-Orient, même si je connais d'autres endroits, je connais un petit peu, disons, l'Afrique, je connais un petit peu aussi l'Extrême-Orient et différentes choses comme ça. Mais la zone géographique que je suis censé un peu, disons, connaître, c'est le Moyen-Orient. D'ailleurs, je m'apprête à y retourner dans quelques jours.
C'était un grand voyage. Sur les traces d'un amour silencieux, un grand voyage entrepris à leur fin, sur la peau d'une ancienne peine. Un grand voyage taillé dans le buis, accroché aux branches des chênes. C'était un grand voyage. La chanson que tu cherches. C'était un grand voyage, au plus près que l'on puisse aller. Un grand voyage dans le son de la pluie, sur le chapiteau d'un vieux cirque tchèque, ou bien derrière un feu de la pleine lune. Parfum des capitales, un grand voyage dans le son de la pluie, dans les yeux d'une esclave négresse.
Matiga et matiga, Jonko Mumundu. Matiga et matiga.
Sur la première.
Joseph Chovanec, on parle aujourd'hui de votre dernier livre qui s'appelle « Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez ». Et je crois que je me suis trompée tout à l'heure en nommant votre livre, j'ai dit « de ceux qui ne le sont pas ». Mais vous avez dit « pas assez ».
Oh, peu importe, j'allais dire le titre, mais « pas assez », c'est pour dire qu'il y a finalement des gens qui ne sont pas assez autistes. Ou alors, comme on dit chez nous, des gens qui souffrent de troubles non autistiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas croire que le handicap ou la différence ou tel syndrome médicalement défini serait quelque chose en moins, quoi. Les gens sont tous différents, mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas comme moi, il est un peu moins que moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a certaines cultures qui, à des moments donnés de l'histoire, ont pu penser ce type de choses, mais c'est une erreur grave. Et il y a une phrase que j'aime bien, elle est attribuée à Einstein, c'est toujours sous réserve les phrases d'Einstein, mais elle est très jolie. Elle dit à peu près ceci. Si vous voulez évaluer un poisson sur son aptitude à grimper à un arbre, ben ça ne marchera pas. Le poisson ne sait pas grimper à un arbre. Mais être un poisson, ça peut être très chouette. Le poisson sait faire des choses que le chat, par exemple, ne sait pas faire. Donc, vous voyez, on est tous un peu complémentaires. Et c'est peut-être cela qui résonne un peu dans ma tête quand j'entends la dernière phrase du préambule de la Constitution qui dit que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres.
C'est la Constitution suisse, en l'occurrence.
Naturellement. Et, oui, c'est un peu comme ça que je le comprends. C'est que personne ne sait tout faire. On est tous et toutes, chacun un peu dépendant des autres. Mais la société humaine, c'est celle précisément qui sait mutualiser les forces des gens et pour construire donc cette communauté, pour reprendre le terme de la Constitution, qui peut progresser. Et quitte à être un peu provocateur, j'ai l'impression que dans certains pays du monde, cette communauté-là se réalise d'une façon telle que on a peut-être des leçons à apprendre en Occident. La société occidentale tend à devenir de plus en plus dure et excluante. Et c'est très triste, je crois. Voyez, notamment, par exemple, pour les personnes différentes, pour les personnes âgées aussi. Vous savez, dans beaucoup de pays du monde, il serait inimaginable de laisser mourir des personnes âgées dans un domicile quelconque et de ne remarquer leur mort que 10 ans plus tard parce que les loyers n'étaient plus payés. Vous voyez, ça arrive pourtant souvent dans les grandes villes, notamment d'Occident, quoi. Quand on raconte ce type d'anecdote à des gens, qu'ils soient algériens ou que sais-je, ils croient que ce n'est pas possible, ils croient qu'on leur raconte du n'importe quoi.
Alors, vous avez trouvé dans la pratique, et je dirais même l'art du voyage, quelque chose d'extrêmement soulageant par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur. C'est un peu troublant pour nous, étant donné qu'il y a ces mots comme de phobie sociale, de difficulté sociale, difficulté d'être avec l'autre. Et il se trouve que vous êtes senti plus à l'aise parfois au Turkménistan qu'à Paris. Mais ça reste difficile pour vous, le voyage ?
Naturellement, pour partir, il y a un petit effort, même parfois un gros effort à fournir. On peut se sentir mal avant le départ, hein. Notamment avant les départs pour plus longtemps. On peut se sentir malade, avoir quelques jours vraiment difficiles. Mais je dirais que c'est comme un investissement ou un cap à surmonter. La vie humaine en tant que telle est faite d'imprévus. Vouloir planifier sa vie de façon parfaite, c'est un piège. Et justement, c'est peut-être cela aussi ce que la société occidentale a perdu, le fait d'oser se mettre en voyage dans des zones que l'on ne connaît pas. Et quitte à être peut-être encore une fois un peu provocateur, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le choix des voyages est plus restreint que jamais. Alors vous allez me dire comment ça, on ouvre je ne sais quel catalogue et on voit des dizaines et des centaines de lieux. Pas tout à fait. Les destinations telles qu'elles nous sont proposées sont de plus en plus standardisées. aujourd'hui, partir à Barcelone, ce n'est pas voyager, je suis désolé. Étant donné que la destination était tellement standardisée, on ne rencontre même plus d'habitants, des locaux. On ne rencontre que d'autres touristes ou des professionnels du voyage. Voyez, alors qu'il y a encore quelques siècles, les grands voyageurs osaient, si j'ose dire, partir. Ça, c'est un peu perdu.
Vous alimentez des réflexions sur ce sujet dans votre livre, Joseph Chovanec, en disant notamment que l'insécurité, c'est la première des libertés. Pourquoi vous l'associez au mot liberté?
Oh, pardonnez, peut-être que cette phrase était malheureuse. J'avais pris une phrase d'un homme politique français qui avait dit à un moment donné, c'est une phrase pas très intéressante sur le monde, la sécurité première des libertés. Et j'avais essayé de modifier cela.
En disant l'insécurité.
Voilà. Mais vous voyez, c'est toujours très difficile de parler de ces sujets, d'autant plus qu'il y a parfois des victimes, donc c'est difficile. Mais il faut savoir une chose, il ne faut pas croire que son pays d'origine, c'est le plus sûr du monde. Vous savez, vous pouvez être beaucoup plus en sécurité, objectivement parlant, je ne sais où, en Asie ou en Afrique, que chez vous. Vous voyez, c'est rien que sur le plan purement objectif. Après, il y a toutes sortes de facteurs qui se surajoutent pour amplifier l'effet, si j'ose dire. Prenons bah, l'exemple d'une personne, disons, différente ou porteuse de handicap qui, de ce fait, n'aura pas accès à un emploi, etc. Donc, pour cette personne-là, le vrai risque, finalement, c'est de rester dans son pays. Parce que là, on a la quasi-certitude que cette personne sera mise à l'écart. Et au contraire, en allant ailleurs, peut-être que ce risque-là, qui sait, sera un peu levé ou pulvérisé. Il y aura d'autres considérations qui entreront en jeu, quoi.
Vous dites même que le voyage, c'est un médicament.
Mais vous savez, peut-être pour le dire autrement, quand vous rencontrez sur des routes perdues, que sais-je, entre Éthiopie et Somalie, un blanc, quoi, donc un Européen si vous préférez, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse d'une personne, je dirais, autiste. Et j'en ai rencontré de ces autistes du voyage. C'est peut-être d'ailleurs leur visage, leur portrait qui m'ont poussé peut-être à tenter d'écrire le livre sur les voyages, parce que j'ai été ébloui par ces différents profils de gens qui, par exemple pour celui qui était hollandais ou pour cette américaine, dans leur pays d'origine étaient, ils ont des moins que rien, quoi. On en voulait pas. Mais en partant vivre en Éthiopie, en partant vivre à Singapour, en partant vivre je ne sais où, ces gens-là ont pu trouver une place, quoi. C'est tout à fait étonnant. Est-ce que finalement le handicap n'est pas un facteur de brassage des cultures? Qui sait, hein? Je n'oserais pas citer certaines phrases bibliques auxquelles vous pensez sans doute déjà, hein? Mais il y a différents passages de ce type qu'on peut trouver dans les différents textes, soit sacrés, soit même de la littérature profane ancienne, hein? Que se serait-il passé si, par exemple, Agamemnon ou que sais-je avait décidé finalement, on est tellement bien chez nous, pourquoi on devrait partir à Troie ou que sais-je, hein, voyez, donc l'histoire du monde serait quand même très triste, hein, s'il n'y avait eu des gens bizarres ou fêlés, en quelque sorte.
C'est une émission dans laquelle on va s'interrompre un petit moment, Joseph Chovanec, parce que c'est une journée nationale de dons. C'est la chaîne du bonheur. On a ça en Suisse et on récolte des fonds. Donc on va laisser la place à Jean-Marc Richard et puis nous on se retrouve juste après. C'est forcément quelque chose qui vous touche.
Vous savez, dans l'un des textes anciens de l'Inde, et Dieu sait que l'Inde est riche en vieux textes, dans le Yoga Sutra, il est dit, quand le désir de posséder disparaît, les joyaux apparaissent.
C'est une belle introduction, Jean-Marc Richard.
Ah oui, c'est l'abandon aussi, à un moment donné, de soi-même pour penser aux autres.
Exactement, et c'est ce qu'on fait dans le cadre de cette journée de la chaîne du bonheur. Où est-ce qu'on en est?
Alors écoutez, depuis ce matin, donc l'idée c'est de programmer des disques sur Option Musique, comme le font nos collègues alémaniques pendant toute la semaine, enfin semaine, depuis hier jusqu'à mercredi prochain, nos amis de Suisse Italienne mercredi prochain. On s'est réunis autour de l'idée de faire quelque chose pour les familles en fuite. Je donne des chiffres depuis le début de cette journée, mais 51 millions, c'est malheureusement le chiffre le plus élevé qu'on ait jamais connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais au-delà, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur le terrain, qui interviennent sur le terrain, qui ont besoin de ce soutien. On a vu dans l'actualité, mais au-delà de l'actualité, il y a des choses qui peuvent se faire avec l'argent. Mmh. Et avec cet argent, eh bien, on pourra financer des programmes de soutien dans de très nombreux pays. Il y a une quinzaine de pays où interviennent les ONG qui sont financées par la chaîne du bonheur. Donc, depuis ce matin, on peut appeler le 0800 87 07 07, 0800 87 07 07. Donc, c'est pas une journée comme les autres en matière de chaîne du bonheur, puisque c'est une journée où on fait une promesse de don contre un choix musical.
Une chanson sur Option Musique.
Voilà. Le problème, c'est qu'on arrive bientôt au bout des propositions de choix.
Oui, mais on
choix.
Va faire des dons, parce que c'est
exactement,
vrai qu'on regarde les
ça.
Infos et on est toujours démunis. Aujourd'hui, on peut faire quelque chose.
Absolument, voilà, on peut le faire. Alors, on peut encore faire quelques choix musicaux, mais il faut faire des dons, et c'est ça l'essentiel. 0800 87 07 07, 0800 87 07 07.
Merci je à tous pour les dons. Et puis nous, on vous retrouve tout au long de la journée pour la suite de cette chaîne du bonheur. On va retrouver dans cette émission Joseph Chovanec après cette chanson de Asaf Avidan.
I know I am dying. Still I'm gonna go try. I'll make it better.
Joseph Chovanec, j'ai envie qu'on revienne sur ce que vous évoquiez tout à l'heure du non-voyage que l'on propose aujourd'hui. C'est un billet avec une compagnie low cost, on va deux jours, on revient. Vous dites que ça pourrait être l'une des activités les plus hostiles au monde tel qu'il se construit maintenant, parce qu'on veut de l'ailleurs et en même temps, il y a une volonté de vouloir tout maîtriser, de ne prendre aucun risque.
Tout à fait. Vous avez, je crois, parfaitement formulé les choses. La vie humaine, le voyage, c'est finalement un peu la même chose. Et c'est un apprentissage qui présuppose un effort, qui présuppose un petit risque. Quand les enfants viennent pour la première fois à l'école, ils peuvent être tristes, ils pleurent parfois. Mais c'est une étape. Voyez, si on voulait parfaitement protéger les enfants, qu'est-ce qu'ils deviendraient? Je trouve par exemple absolument frappant de voir des vedettes ou des milliardaires américains notamment qui se construisent des palais-forteresses avec mille et une alarmes et systèmes de surveillance les plus élaborés, les plus coûteux et qui finissent par se suicider dans leur chambre ultra protégée, quoi. Très frappant, il y a beaucoup de cas comme ça. Alors que peut-être si ces personnes-là avaient abandonné toutes leurs alarmes et autres dispositifs de surveillance, étaient parties vivre, je ne sais pas, dans une chaumière éthiopienne, peut-être que ces gens-là seraient plus heureux. Vous savez, il y avait, c'est aussi un peu perdu, une tradition, par exemple, des cures d'eau, quoi. Les différentes cures, que ce soit au grand air ou dans différentes eaux minérales. L'objectif de ces cures, ce n'était pas forcément, j'allais dire, un traitement médical au sens qu'il y aurait tel ou tel produit chimique qui entrerait dans l'organisme. C'était tout simplement le fait de se retrouver dans un autre cadre. Voyez, c'était aussi ça l'un des mécanismes de ces cures de jadis, quoi, et qu'on a un peu perdu. Aujourd'hui, la durée des vacances se réduit sans arrêt. Les gens partent pour de moins en moins longtemps et ont des voyages de plus en plus planifiés, de plus en plus codifiés. Et comment voulez-vous découvrir des choses? Si vous allez dans un musée, par exemple, en sachant ce qu'il y aura parce que vous avez vu des photos dans des guides ou sur Internet, comment est-ce que vous pouvez apprécier les choses? Vous voyez, la découverte artistique ou découverte humaine, c'est un peu la même chose, ne peut se faire que par surprise. Vous voyez, la surprise, la découverte. Et notamment quand vous êtes, par exemple, une personne méthode différente ou quand vous êtes porteur, porteuse d'un handicap, eh bien, lorsque vous êtes confronté à cet imprévu, vous découvrirez finalement votre culture d'origine et vous découvrirez vous-même. Voyez, si par exemple au Japon on vous apprend à saluer à la japonaise, eh bien ça vous permettra par contraste de comprendre les modes de salutation qui prévalent dans votre pays d'origine.
Car vous, Joseph Chovanec, vous avez eu le sentiment d'apprendre les codes parce que vous êtes toujours dans cette attention à vous adapter à ce qui est autour de vous.
Voilà, si vous le faites, vous aurez peut-être une chance d'être accepté. Alors là, vous posez une question qui fait l'objet de diverses discussions, parfois vives, notamment entre les gens autistes, parce que la question c'est la suivante, jusqu'à quel point il faut se normaliser, entre guillemets. La question a été posée exactement dans les mêmes termes, par exemple dans la communauté des personnes sourdes. Notamment aux États-Unis, il y a eu de très vives discussions dans la communauté des gens sourds pour savoir est-ce qu'il faut, par exemple, appareiller, comme on dit, les enfants sourds. Donc, par exemple, leur installer un dispositif pour qu'ils entendent, pour qu'ils aient une chance d'entendre, parce que ça ne marche pas toujours. Et donc, certaines associations se sont opposées de manière particulièrement virulente à cela en disant que cela éliminerait la culture sourde qui est donc une culture au même titre que je ne sais quelle culture, par exemple d'Océanie, voyez. On peut tout à fait voir les choses comme ça. Mais il y a eu vraiment ces deux options dans le monde des sourds. Et dans le monde, j'allais dire, des gens autistes, il y a aussi ces deux options. À titre personnel, on me fait souvent des reproches d'être, par exemple, « mou », entre guillemets, ou parfois on me surnomme le masochiste, c'est-à-dire que je ferais des choses qui me seraient désagréables uniquement pour faire comme l'autre, pour faire plaisir à l'autre. Peut-être, c'est peut-être vrai, sans doute, hélas même. Mais d'une certaine façon, je n'avais pas tellement le choix, quoi. J'avais été vraiment, disons, tellement mis à l'écart que j'avais dû mettre en place, disons, une très grande énergie pour tenter d'avoir des amis, etc. Donc, vous voyez, c'est finalement, il y a toujours plusieurs choix qui s'ouvrent à nous dans la vie, quoi. Si vous souhaitez partir maintenant pour quelques semaines, vous pouvez partir à Barcelone. vous pouvez partir à Ispahan en Iran. Partir à Barcelone, ça peut être plus facile. Vous savez, c'est plus proche. Peut-être que vous y êtes déjà allé. Il y a des compagnies aériennes qui desservent la destination très, très régulièrement. Vous ne serez pas perdu parce qu'il y a toutes sortes de panneaux indicateurs pour touristes. Bien, mais dites-vous qu'au retour de Barcelone, qu'est-ce que vous en garderez, quoi? Voyez? Par contre, si vous faites l'effort, si vous vous faites entre guillemets violence, si j'ose dire, pour partir à Ispahan, ça sera plus compliqué. Vous aurez peur. Votre famille vous dira, mais vous êtes complètement fou ou folle de partir là-bas. Voyez, on demandera l'extrême onction. Non, je plaisante. Mais, voyez, mais ce que je peux vous garantir ensuite, c'est qu'au retour d'Ispahan, vous n'oublierez jamais les palais d'Ispahan, les roses, les poètes. Les... voyez, donc, dans la vie, il y a toujours plusieurs choix. Et aucun n'est parfait. Chacun est plus ou moins difficile. Si vous permettez de citer une petite phrase qui est de Rumi, c'est, disons, l'un des princes des poètes soufis, quoi. Et on pourrait la traduire comme suit. « Ce n'est que quand tu t'écartes du chemin que le chemin apparaît. »
Joseph Chovanec, les paysages ont sur vous un effet très fort. Et vous dites que le moment du voyage, du déplacement géographique, c'est une partie du voyage. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a tout ce qui reste en nous. Il y a les images qui nous accompagnent et qui font partie de nous, qui agissent sur nous encore bien après le temps du voyage.
Tout à fait. Vous savez, quand on regarde un profil Facebook... je ne suis pas sur ce site-là, mais quand on regarde des profils Facebook, on sait généralement au bout de quelques secondes si l'auteur du profil est une personne autiste ou non autiste. Les personnes non autistes ont tendance à se photographier eux, quoi. C'est toujours moi dans tel cadre, moi ici, moi là, moi au restaurant, voyez. Un profil Facebook d'une personne autiste, c'est par exemple un moteur d'avion en train d'être monté, ou alors des paysages sans rien, plutôt sans personne, voyez. Et donc c'est un peu, je suis dans cette optique-là. Je prends des photos, je ne suis pas du tout bon photographe, mais je prends de nombreuses photos en voyage. Mais j'évite autant que faire se peut de prendre des photos où il y a des gens. Je trouve que les paysages marquent très fortement, et cela suffit déjà largement à créer un univers intérieur. Parmi les paysages, si je peux en citer deux ou trois qui m'ont peut-être plus marqué que d'autres, ça pourrait être tout d'abord dans l'enfance, les paysages du Haut-Valais. Avec mes parents, quand j'étais petit, on y allait souvent, donc je connais assez bien le coin de Brigue, par exemple. Mais je n'y suis plus retourné depuis plus d'un quart de siècle. Mais cela trotte en mémoire, en quelque sorte. Puis, deuxième, peut-être, paysage marquant, ce sont les déserts, notamment les montagnes du désert. J'ai un petit faible pour les montagnes du désert, là où il n'y a pas de végétation, si possible. Lorsqu'elles sont noircies, je dirais, par le soleil, parce que, oui, même les montagnes dans le désert souffrent de l'excès d'ultraviolet. je plaisante, mais oui, cela peut donner matière à méditation. D'ailleurs, et je ne m'attarderai pas sur ce sujet, bien qu'il soit passionnant, mais il y a toute une théorie en théologie, par exemple, qui explique que les religions monothéistes, ou plutôt les trois grandes religions du livre, sont des religions du désert. Et c'est vrai, quoi. On peut s'amuser à tracer mille et un parallèles entre tel ou tel trait, je dirais, intellectuel ou philosophique, et le cadre naturel d'où cela est issu. On peut le voir comme ça. Et puis après, pour troisième paysage, comment dire, ça pourrait être des paysages en Sibérie. Vous savez, il y a des lieux. Alors, on m'a dit au Canada aussi, mais je ne suis pas allé dans des coins vraiment déserts du Canada. Je ne connais que certains coins en Sibérie où, par exemple, votre plus proche voisin est à 2000 km. C'est fabuleux. J'ai passé l'été 2014 notamment à Yakoutsk. Quand vous sortez de Yakoutsk, il y a juste une route qui est désastreuse, soit dit au passage. Elle avait eu il y a quelques années le prix de la pire route au monde. Et il y a donc au sortir de Yakoutsk une pancarte où il y a marqué Lensk. Alors, Lensk, c'est un tout petit village. Hein. Il y a marqué, je crois, 1200 kilomètres. Encore, ce n'est pas le coin le plus désert de Sibérie. Hein. Donc, ça donne à réfléchir sur qui nous sommes. Finalement, nous sommes tellement petits au milieu de ces grandes étendues. Est-ce que l'être humain occidental qui se complaît dans des villes, finalement, ne passe pas complètement à côté de ce que pourrait être une existence humaine à méditer? Je ne sais pas.
Alors justement, comment est-ce que vous percevez ce monde qui va de plus en plus vite et qui est dans des préoccupations de plus en plus consommatrices, commerciales, superficielles?
Ah, c'est une très bonne question. J'ai une amie, elle s'appelle Atefe, c'est une jeune médecin à Téhéran. Elle m'avait posé, à l'hiver dernier, une question assez abrupte qui m'avait laissé, je dirais, pantois. Elle m'avait demandé pourquoi en Occident les gens étaient tellement obèses. Donc, je crois que je lui avais répondu, mais ce n'est pas moi le médecin, ou quelque chose comme ça. Mais la question, elle est bien sûr tout à fait simple en apparence, mais elle recoupe beaucoup de réalité, parce que dans des cultures différentes, les gens savent manger, quoi. En Occident, on ne sait plus manger souvent, quoi. Et c'est dramatique. Comment est-il possible que la pire des cuisines, sans doute possible, ait eu le plus de succès? C'est quand même impressionnant, c'est impressionnant. Heureusement, malheureusement, il est peut-être erroné de croire que l'occidentalisation est si forte qu'on ne le pense parfois. C'est faux. Il y a beaucoup, beaucoup de régions du monde qui sont complètement à l'écart du mouvement occidentalisant, si j'ose dire. Et pour vous donner un exemple concret, il y a un lieu du monde qui m'a beaucoup, disons, marqué. Je n'y suis allé que deux fois. Mais ce sont les zones tribales entre Pakistan et Iran, le Baloutchestan, c'est le nom officiel de cette immense région, c'est très grand, peut-être des millions de kilomètres carrés, qui sait, parce que ça déborde, ce n'est pas parfaitement délimité naturellement, mais ça déborde sur quatre pays, Oman, Afghanistan, Pakistan, Iran. Voyez, dans cette zone géographique immense habitent des habitants qui ont une langue à eux, même plusieurs langues, qui ont une tradition littéraire, etc. Et la question que je vous pose sur Internet, combien de sites web portent sur le Baloutchestan? Je veux dire, autre que par exemple, je ne sais pas, tel ou tel fait divers, il y a eu un tremblement de terre, je ne parle pas de ça, mais qui porte sur Baloutchestan de façon, je veux dire, intelligente, qui évoque par exemple la culture locale, qui évoque, voyez, toutes ces choses-là, il n'y en a pas.
Alors que c'est une réalité qui prend géographiquement beaucoup plus de place que la plupart des infos qu'on entend chaque jour.
Il y a mille et un petits mondes, parfois grands mondes, qui existent mais qui ne transparaissent pas dans ce qu'on peut voir vu d'Occident. Vous voyez, c'est une déformation psychologique relativement classique. Quand vous demandez à quelqu'un de dessiner le monde, alors il ou elle dessinera en très grand sa région d'origine avec tous les petits détails, les villes, et puis ensuite il n'y aura plus rien, et peut-être il marquera comme jadis sur les cartes, ici vivent les loups, quoi, des choses comme ça. Ce n'est pas tout à fait réaliste, et donc en quelque sorte c'est cette exploration de ces zones un peu oubliées qui me motive un petit peu, et c'est peut-être là qu'on fait les plus belles découvertes.
Dans votre livre « Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez », qui paraît chez Plomb, Joseph Chovanec, vous êtes complètement sidéré par le fait qu'on peut avoir pendant 10 ans des problèmes avec un voisin ou avec quelque chose qui est très proche, et le fait qu'on ne s'en éloigne pas, et vous faites en fait l'apologie de cette ouverture au monde, mais aussi au monde des personnes qui vivent avec un univers différent à cause du handicap ou d'une personnalité aussi. C'est très ouvert.
Voilà, vous savez, mes parents étaient des immigrés politiques. Et ils ont donc dû franchir le mur réel ou virtuel qui coupait l'Europe il y a encore quelques années de cela.
Des dissidents tchèques.
Voilà, mais en apparence, ce mur-là est tombé. Il reste dans les mentalités et les esprits, c'est évident. Mais à côté de ça, de nombreux murs sont apparus. Vous savez, il y a encore, mettons, 30 ou 40 ans, il était relativement facile pour un jeune habitant un village en Ouzbékistan ou que sais-je, d'aller en Allemagne de l'Est. Alors que maintenant, ça sera absolument inimaginable pour lui, quoi. Voyez. Prenons un autre exemple. Je sais que c'est très tragique, d'autant plus que cela renvoie à une histoire familiale directe. Mais il y a eu un certain nombre de morts sur le mur de Berlin ou en général sur toute la frontière entre Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. C'est vrai, et c'était des histoires absurdes, tragiques. Mais aujourd'hui, il y a au moins 10, voire 100 fois plus de morts dans la frontière méditerranéenne entre Afrique du Nord et Europe du Sud. Voyez, donc il y a des barrières comme ça qui se créent. Et une barrière, par exemple, qui peut donner à réfléchir, je vais l'illustrer par un tout petit détail. Pardonnez l'allusion, mais il y a eu dans l'histoire de France un président français qui s'était appelé Sadi Carnot. étrange prénom, non, Sadi. Parce que, en fait, son père était un grand amateur de poésie persane. Et Saadi est l'un des grands noms de la poésie persane classique. Sauf que, à l'époque, tout le monde savait que Sadi Carnot, le Sadi, renvoyait donc à Saadi le poète. Aujourd'hui, plus personne ne le sait. C'était il y a un siècle et demi. Voyez comment l'univers occidental s'est rétréci en l'espace d'un siècle et demi. On croit avoir, par exemple, de l'actualité ou des informations venant de tel ou tel pays, mais qu'est-ce que cela donne comme image réelle ou pas de la culture locale, des rêves des gens, des attentes, les fables d'Ésope devenues fables de La Fontaine viennent d'Inde. Est-ce que quelque chose comme ça serait possible encore aujourd'hui? Aujourd'hui, certes, on peut avoir beaucoup d'informations sur l'Inde vue d'Occident, mais ce sera des informations comment s'appelle le Premier ministre. Voyez, c'est quand même assez triste.
J'aimerais vous poser encore tellement de questions, Joseph Chovanec, et puis l'heure file, c'est bientôt la fin de l'émission. Alors, je ne sais pas dans quelle direction aller. Ça, c'est une très belle conclusion, mais je suis impressionnée en vous voyant par tout ce que vous nous dites de cette ouverture au monde et le fait que vous parliez tant de langues et vous parlez très bien le persan. Vous n'aimez pas vous vanter, mais dites-nous quand même combien de langues vous parlez.
Dans le Caucase, c'est l'une de ces régions un peu oubliées du monde, avec des montagnes magnifiques et des cultures très diverses. On appelle ça parfois le paradis des linguistes. Eh bien, dans le Caucase, le plus humble colporteur de village parle peut-être plus de 10 langues. C'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'école. Peut-être qu'il n'est jamais allé à l'école. Et des langues très compliquées, beaucoup plus compliquées et diverses entre elles que par exemple le français et l'allemand. Et c'est normal. En Occident, on a inventé quelque chose de fatal, à mon avis, le monolinguisme. Pourtant, le cerveau humain, et ça a été montré, le cerveau humain est fait pour avoir au moins 4, 5, 6 langues maternelles. Vous savez, et je pense que c'est très triste de vivre le monde sur le mode monolingue. Et quand je dis monolingue, ce n'est pas forcément sur le plan purement linguistique, mais c'est aussi, j'allais dire, une difficulté à imaginer le monde vu sous un autre angle. Et monolinguisme culturel, pourrions-nous dire cela comme ça. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on réussira à augmenter, à améliorer donc ce plurilinguisme. Vous savez, il y a par exemple une langue que je trouve absolument géniale, mais que je n'ai jamais réussi à apprendre ni à comprendre, c'est le balois, par exemple. On parle de la protection des espèces animales, je ne sais où, qui disparaissent. C'est vrai, mais il faut aussi protéger, entre guillemets, les espèces humaines multiples, diverses et fantastiques.
J'en remercie Joseph Chovanec, et puis je note quand même que vous avez très brillamment éviter de répondre à la question que je vous posais parce que vous n'aimez pas le dire. Je vous pose une dernière question. Vous avez parlé au cours de cette émission de votre manière d'aborder le monde et je sais que c'est très important pour vous de parler aussi au nom des autistes qui sont enfermés, soit dans le médicament, soit dans un lieu, enfin, ça vous tient vraiment à cœur. Et parallèlement, vous avez souvent dit « Ah, mais cette personne rencontrée était autiste », comme si vous voyiez des autistes très souvent. J'aimerais juste vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est l'autisme pour vous, les degrés, les gens que vous percevez comme ça quand vous dites ça?
L'autisme est une réalité qui concerne beaucoup de monde, à peu près 1% de la population dans tous les pays et dans toutes les cultures. C'est à peu près la même proportion que des personnes schizophrènes, à peu près aussi 1%, une autre de ces catégories oubliées. L'autisme est défini de façon médicale et de façon assez stricte, dirions-nous, mais ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui de parler de sujets médicaux. ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas forcément des degrés d'autisme au sens que la personne serait définie par tel ou tel niveau. Non, les degrés, ce sont des étapes d'apprentissage. Comme quand on fait des mathématiques, par exemple, au début, on n'a pas forcément un très bon niveau, mais petit à petit, on s'améliore, du moins c'est ce qu'on espère. Une fois, un prof de danse m'avait dit, il n'y a pas de mauvais danseurs, il n'y a que des mauvais profs de danse. C'est peut-être un peu exagéré, mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque enfant, chaque jeune avec autisme, quel que soit son profil, peut beaucoup progresser. Et pourra vous entraîner, par exemple, en voyage, ben là où vous ne seriez pas allé. Les meilleurs guides touristiques, à mon avis, ce sont des gens autistes. Ils connaissent parfois tous les détails. J'ai pu visiter certains coins du monde guidés par une personne autiste extraordinaire. Je n'oublierai pas.
Merci beaucoup, Joseph Chovanec.
Merci à vous. Je crois en balois, on dit merci filmol.
Voilà. Joseph Chovanec, peut-être comme moi, aurez-vous été touché par cette rencontre et par cette grande ouverture au monde. Il nous donne de la place, il élargit quelque chose. Son livre s'appelle « Éloge du voyage, à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez ». Ça paraît aux éditions Plon. Vous dire encore que c'est une journée de la chaîne du bonheur, que vous pouvez faire vos dons au 10-15 000-6 ou alors une promesse de don au 0800 87 07 07. Et puis que demain, ce sera la dernière émission des tours avant la pause de Noël. Nous parlerons carte postale et puis nous enverrons quelques pensées à Franck Musy en faisant un petit tour au Burkina Faso pour accueillir le zèbre qui vient d'arriver là-bas. À demain donc. Voici les infos. Il est 16h sur la première.